L'instant info ce matin avec nos journalistes Camille Garraud, Marion Gaillard et Corentin Zouki. Corentin, vous nous parlez du conflit au Moyen-Orient, où la situation évolue sur tous les fronts.
Au Liban d'abord, les frappes israéliennes continuent malgré les négociations en cours à Washington. Bilan ce vendredi, au moins 37 blessés dans le sud du pays et 3 secouristes tués à Arouf, des membres du comité islamique de santé affilié au Hezbollah. Pourtant, bonne nouvelle en parallèle, Israël et le Liban ont accepté de prolonger leur cessez-le-feu de 45 jours supplémentaires. Un cessez-le-feu qui, on le rappelle, n'empêche pas les frappes de part et d'autre. Côté Iran, le ton semble légèrement s'adoucir. Téhéran dit vouloir, je cite, « parvenir à une solution négociée » et affirme avoir reçu des signaux positifs de Washington. Signaux concrets, l'Iran laisserait désormais passer davantage de navires dans l'étroit d'Ormuz. La France, elle, positionne le Charles de Gaulle en mer d'Arabie en posture défensive, insiste le ministère des Armées, et Pékin réclame une réouverture du détroit dès que possible.
Et pendant que les tensions autour de l'Iran occupent la scène internationale, les États-Unis semblent également regarder du côté du continent asiatique, avec la visite de Donald Trump en Chine. Camille, vous pouvez nous en dire davantage ?
En effet, ce jeudi 14 mai, le président américain et Xi Jinping se sont rencontrés à l'occasion d'une longue et importante discussion portant sur les fortes tensions au Moyen-Orient, la guerre particulièrement meurtrière en Ukraine, ainsi que la situation délicate dans la péninsule coréenne. Si Donald Trump qualifie cet échange avec son homologue chinois d'extrêmement positif et productif, Xi Jinping, lui, le prévient d'un éventuel conflit majeur entre les deux États si Washington n'encadrait pas correctement la question sensible de Taïwan.
Et justement, derrière cette mise en garde de Xi Jinping, que veulent réellement la Chine et les États-Unis concernant Taïwan ?
D'un côté, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique mais se réserve la possibilité de recourir à la force, nous informe le journal La Tribune, tandis que les États-Unis soutiennent militairement l'île. Cependant, cette aide stratégique s'est réalisée sans reconnaissance officielle, à part entière, ni véritable soutien aux velléités d'indépendance taïwanaise. Nous comprenons donc que Washington cherche surtout à préserver un équilibre géopolitique dans cette région particulièrement sensible. Ainsi, à l'issue de mon analyse, il apparaît clairement que chaque puissance défend avant tout ses propres intérêts stratégiques dans un espace extrêmement tendu. Cette aide, apportée par les États-Unis, constitue ainsi une source majeure de tensions diplomatiques et militaires entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.
Eh bien, après ces informations, ma foi, intéressantes, revenons vers l'Europe, où un virus inquiétant semble faire escale.
À bord du MV Onduce, un navire de croisière transportant 149 passagers de 23 nationalités différentes, un foyer épidémique d'antivirus a été découvert. Ce virus, transmis à l'homme par des rongeurs infectés, est ici de souche Andes, une souche sud-américaine et la seule connue à ce jour capable de se transmettre directement d'homme à homme. Ce qui en fait, vous l'aurez compris, un cas particulièrement surveillé par les autorités sanitaires. Bilan à bord, 3 passagers sont décédés de la maladie. Le bateau a donc fait une escale à Tenerife pour rapatrier ses passagers dans leur pays d'origine. Et de notre côté, 5 Français étaient à bord, rapatriés puis placés en quarantaine, un processus qui peut prendre jusqu'à 42 jours. L'un d'eux a été testé positif et 22 cas contacts ont été identifiés et sont désormais surveillés de près. De quoi nous interroger sur notre propre exposition. La ministre de la Santé a tenu à nous rassurer. Elle dit que la France est prête à faire face à la situation, en termes de masques, en termes de tests PCR notamment, en termes aussi de médicaments. Le gouvernement nous assure donc que le dispositif est en place. Affaire à suivre.
Et pendant ce temps, pour les lycées, c'est un autre type de nouvelles qui tombe.
Mardi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé l'annulation des épreuves écrites et orales du brevet et du bac dans plusieurs pays, du Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'au Mali, afin de, je cite, « tenir compte des situations particulières dans ces pays ». Une mesure directement liée au conflit en cours au Moyen-Orient et à la situation sécuritaire critique au Mali. Les élèves concernés se verront alors attribuer leur moyenne annuelle. Une décision qui n'a pas déplu à tout le monde. Une lycéenne de 17 ans au Liban témoigne sur RTL. Tout le monde a commencé à crier que le bac était annulé, on a tous été très heureux et tout le monde a commencé à sauter. En même temps, on les comprend. Mais la même élève finit par nous confier avec une pointe de regret. J'aurais bien aimé le passer quand même pour avoir cette expérience, pouvoir dire que j'ai passé le bac. Et comme elle visait la mention très bien, sa moyenne actuelle ne lui permettra pas de l'atteindre.
On se tourne désormais vers une autre actualité marquante, cette fois-ci dans le domaine culturel, le boycott de l'Eurovision.
En effet, j'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté de la polémique autour de la célèbre émission l'Eurovision, ce qui a notamment débouché sur un appel au boycott.
Mais alors Camille, quelles sont les raisons principales qui poussent plusieurs États à demander ce boycott ou à s'en retirer ?
Tout d'abord, il me semble important de préciser que, dans ce cas, les causes sont majoritairement politiques, puisque plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Islande, la Slovénie, les Pays-Bas ou encore l'Irlande, boycottent l'événement pour protester contre la présence d'un candidat de l'État hébreu, selon Le Monde. Si le slogan bien connu de l'émission, uni par la musique, semble être universel, il est remis en question par certains protestants contre la présence d'Israël dans le cadre de la guerre meurtrière dans la bande de Gaza et sa façon de la mener.
Alors, est-ce qu'on peut déjà observer des répercussions importantes liées à la polémique ou au boycott de l'Eurovision ?
Tout à fait, malgré le retour de la Bulgarie et de la Roumanie dans la compétition, les cinq États laissent, selon Le Monde, un manque important à gagner pour l'Union européenne de radio-télévision qui chapeaute le concours. C'est notamment le cas de l'Espagne, membre du Big Five, les cinq plus gros soutiens financiers de l'émission tels que la France, l'Italie ou encore le Royaume-Uni. Cependant, le pays n'a pas simplement décidé de se rétracter. La télévision espagnole RTVE a affiché un bandeau noir avec le message suivant « L'Eurovision est un concours, mais pas les droits humains, pas d'indifférence, paix et justice pour la Palestine ». De nombreux artistes venant du monde entier ont eux aussi appelé au boycott de cette 70e édition, encourageant des centaines de personnes à crier « Free Palestine » durant des manifestations.
Attention aux inventeurs, celui-là c'est pour vous, le concours Lépine vient de rendre son verdict.
24e édition s'est tenue Porte de Versailles dans le cadre de la Foire de Paris et c'est un robot sous-marin baptisé Mister Turbino qui a décroché le Grand Prix. Son invention, aspirer les déchets et microplastiques au fond des océans sans perturber la vie marine. Derrière ce projet, Alain d'Alfonso Peral, un inventeur du Haut-Viennois, qui rejoint ainsi au palmarès les créateurs du stylo à billes ou encore du fer à repasser à vapeur. Cette année, c'est plus de 500 inventions qui étaient en compétition, preuve que l'ingéniosité française se porte bien.
Et enfin, on termine avec nos bleus.
Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé aux 20h de TF1 sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, Canada et Mexique cet été. Une liste avec du beau monde, Mbappé, Dembélé, Kanté, mais aussi des absents qui font parler, Kamavinga et Lucas Chevalier sont écartés. Les Bleus, premiers au classement FIFA, affronteront au premier tour le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Ce sera aussi la quatrième et dernière Coupe du Monde de Deschamps à la tête des Bleus, après 14 ans de mandat. Et puisqu'on est sur le terrain, en Argentine la semaine dernière, un chien de 7 mois porté disparu a fait irruption en plein match sur la pelouse du club de Rosario Central. Les joueurs ont tout arrêté devant un stade bien amusé et sa propriétaire l'a finalement reconnu sur les images et a pu le récupérer. Meilleur joueur du match, sans aucune contestation possible.
Merci Marion, Camille et Corentin et on se dit à la semaine prochaine pour l'Instant Info.